Lopez has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle and Lenny Wilkins leads to four.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time saison 3. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est présent sur Facebook et Instagram, n'hésitez pas à nous y rendre visite. Et par ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en streaming sur www.graphite.net et même la podcaster sur Spotify. Merci Baptiste. Aujourd'hui, l'équipe vous a concocté un double dossier puisqu'on va s'intéresser d'une part aux grandes rivalités historiques ou en devenir qui animent les deux conférences de la NBA depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Et d'autre part au geste le plus populaire, le plus fun et le moins accessible au commun des mortels que nous sommes, le dunk ou l'art de s'envoyer en l'air quand on en a la chance. Au programme de cette émission, vos chroniques habituelles, l'actu de la balle orange, la vie des clubs, les matchs de la nuit, le basket et WAM. Et donc en deuxième partie d'émission, nos grands dossiers et notre buzzer beater évidemment pour conclure. Et évidemment, pour cette émission, j'ai fait appel à la crème de la crème, à ce qui se fait de mieux sur les animateurs locaux du basket. Des représentants du dunk qui forcément s'afficheraient plus du mauvais côté du poster, puisqu'évidemment, le dunk pour nous s'est permis seulement entre 2h et 3h du matin en sommeil paradoxal. Et on commence avec celui qui s'approche le plus près de l'arceau, même si on n'a pas placé la barre très haut. Baptiste.
Salut tout le monde.
Jaylen Brown pourrait lui passer dessus, ou, pardon, par-dessus plutôt. Il serait content de servir la cause celte. Salut Bruno.
Salut, tout à fait d'accord.
Et il aimerait se faire dunker dessus par Kate Cunningham ou Grant Hill, car au cas où vous ne seriez pas au courant, les Pistons.
Les premiers de l'Est. Salut les potos.
C'est Mehdi. Hein. Et enfin, elle a toujours gardé une pensée émue pour Anderson Varejao après avoir assisté en direct il y a quelques années à son éclatage par D-Wade, c'est WAM.
Salut WAM.
Allez, on commence tout de suite avec l'actu de la balle orange, c'est parti. Alors, dans l'actu de la balle orange, on ne parlera pas ici des contre-performances historiques de la nuit de lundi à mardi, puisqu'on a quand même assisté à un combo victoire de Washington contre Milwaukee, de Utah face à Houston et de Dallas face à Denver.
Cette nuit est incroyable.
Est-ce que vous savez à combien était la cote?
Trois victoires sportifs.
Ouais, les trois. Les trois
35
35
50.
T'es pas loin. T'es pas 135. Il manquait 100.
C'était incroyable. Quand tu regardes les résultats mardi matin, là, je fais bah, c'est pas possible.
Et pourtant, ça s'est passé. Donc, une cote 135. Franchement, même Thierry Rozier, notre spécialiste en beaucoup, n'a pas vu venir. Donc, voilà. On commence par la 800e victoire de coach Spoelstra. Eric Spoelstra, le coach du Miami Heat. Ah, je suis un type content.
Voilà, alarme.
Voilà. Un grand coach, hein, sans doute même le meilleur en activité, si on fait peut-être exception de Steve Kerr. Hein. Il y aurait débat avec Steve Kerr, peut-être.
Et il y en aura d'autres.
Ouais. Et les chiffres, il se tape apparemment royalement, hein, parce qu'il n'était pas au courant qu'il avait remporté sa 800e victoire. Donc, ces chiffres l'ont consacré comme le troisième coach le plus victorieux de l'histoire au sein d'une même franchise. Donc, c'était la semaine dernière. Il s'est fait arroser.
Popovic.
Popovic. Et le deuxième, je crois que c'est Lenny Wilkins. Non, c'est pas Lenny Wilkins.
C'est le deuxième.
Je sais plus. Bon, bref.
Trop vieux pour nous.
Ouais, trop vieux, voilà, quoi. Là, on est jeunes. On continue. Alors, c'est tombé aujourd'hui, c'est tout frais, Chris Paul remercié par l'Eclipse. Alors des fois que la saison de l'autre équipe de LA n'était pas assez pourrie, avec une grande classe, Lawrence Frank a annoncé que ce vieux CP3 allait pouvoir goûter à une pré-retraite pour le bien de tout le monde apparemment.
Mais en le remerciant beaucoup.
Ouais.
T'en vas,
mais le truc, quand même. Ouais. Le texte de faux cul, c'était politiquement correct, vraiment. Le
mec,
truc.
Sa dernière saison NBA.
Mais Houston cherche un meneur.
Ah, tu crois?
Ouais. Houston, un meneur pas cher. Ou alors OKC ici pour avoir un titre. Mais bon.
OKC ici, ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de Non, peut-être aller à Sacramento avec Westbrook aussi.
C'est rigolo, ça.
Oh, la maison de retraite.
Ah ouais, c'est clair. Bon, quand on veut pas taper sur les Clippers, ils font tout pour qu'on leur tape dessus quand même.
Les résultats et ça...
Pourtant, on croyait que Bruno leur avait réglé leur compte il y a 15 jours.
Tu te rappelles, l'année dernière, il avait déglingué Indiana. Bon, ils ont fini en finale NBA. Il s'est dit, allez, autour des Clippers.
Voilà, il est passé.
Raté.
Voilà, non, ça va pas marcher comme ça, là.
On continue avec les équipes qui vont pas bien. Les Chicago Bulls ou Chicago Blues, les appeler. Hein. Levez la main ceux qui ont vraiment cru que Chicago était redevenu une équipe de basket après 10 ans à fréquenter le ventre mou de la conférence.
Normal, ils sont 10e.
Oui, voilà, play-in, papa.
Bah, l'embellie aura duré le temps de 10 matchs. La réalité est en train de reprendre le dessus sur le fantasme. Puisque s'il y a un mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'émission, l'avant-dernière émission, l'affiche Bulls-Sixers se disputait la première place de la conférence.
Ça nous faisait rêver à l'époque.
Voilà, ça ne nous a pas fait rêver longtemps. Depuis, ils ont enchaîné les perfs plus conformes à leur réputation et ils sont redevenus les dixièmes qu'ils sont condamnés à rester.
Le taureau a moins d'énergie.
Ouais, le taureau a plus de cornes. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment quoi.
Écorné le truc.
On continue alors avec le programme de la NBA Cup, messieurs. On connaît les quarts de finale. On a des grands absents quand même. Alors, on en discutait un petit peu en antenne tout à l'heure. On se disait que c'est vrai qu'avec 8 places à fournir, forcément, il y avait des gens qui rataient la.
Et puis tu peux pas te rater sur cette NBA Cup.
Défaite et
ça va vite.
C'est quasiment fait. Donc on peut dire que noter les absences de Denver et Houston et de Détroit. Dans une moindre mesure Cleveland, mais Cleveland n'a pas fait un grand début de saison. Donc ils n'ont pas survécu en tout cas au match de poule. Et donc on va avoir comme affiche le 9 décembre un derby floridien, ça va être sympa ça.
Ouais.
Magic contre Heat, un Raptors Knicks.
Ça peut être sympa aussi.
Sympa aussi parce que
les Raptors, ils ont une super équipe.
On les attendait pas là, mais ça joue drôlement bien. Ça c'est pour la conférence Est. Et le 10 décembre, on aura un Thunder Suns. Suns, super surprise aussi pour l'instant.
Ça joue bien les Suns.
Ouais, vraiment.
Suns, ça joue vraiment. Et ça joue collectif.
Ouais, exactement.
Et Dylan Brooks, c'est quand même un très bon joueur de basket.
Chaque fois qu'il passe dans une franchise.
Non, mais on a voulu le mettre dans une case, mais le gars, il est sûr. Hein.
Oui, et puis il suscite de la grinta quand même chez ses coéquipiers.
Toujours.
Il les met tous au diapason quand même. Donc, pas mal.
Je pense que quand il te parle, tu l'écoutes lui.
Oui,
c'est
envie de le contredire.
Non, mais c'est comme un pitbull qui veut ton sandwich, tu lui donnes. Hein. C'est ça. Voilà. Bon, bah lui, quand
allez,
il
vas-y, prends-le. Et puis, à la dernière affiche, c'est un Lakers-Spurs. Ça, c'est sympa aussi.
Et peut-être un retour de Wemby.
Ouais, alors Wemby est annoncé peut-être pour ce match-là.
Pour ce match-là, ouais.
Super quand même, franchement. Ouais. En tout cas, voilà, ce sera dans la nuit du 10 au 11 à 4h du matin, levez-vous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on passe aux résultats des clubs par Mehdi ou tu voulais faire une petite...
Non, mais en fait, on n'entend pas trop parler de la NBA Cup, sauf ceux qu'on ne ligue pas, et ainsi de suite, parce que ça passe pas du tout sur Bein.
Non, je passe sur Amazon.
Voilà, et si jamais tu écoutes un peu Bein, ils n'en parlent jamais.
Ah oui, c'est pour
ils n'en parlent c'est jamais, ils n'ont même pas donné les quarts de finale, ils n'ont rien donné du tout. Cool. Parce qu'en fait, les matchs de la NBA Cup, c'était dans la nuit du vendredi au samedi. Mmh. Et tout passait sur Amazon. Et du coup, sur Bein Sport, tu avais zéro match. Donc, ils n'en parlent jamais de la... Donc, un peu passée au travers de tout le monde.
Il n'y a que la finale qui compte pas dans la régulière.
Oui.
Tous les autres, ça compte
en match régulier.
Ça compte. Du coup, ils doivent jongler avec le calendrier aussi. Mais oui, c'est vrai que là, cette année, il faudrait qu'on fasse un dossier spécial, un buzzer beater une fois sur comment suivre la NBA aujourd'hui. Parce qu'entre Bein, Amazon, le League Pass et même certaines applications de paris sportifs qui permettent de voir quand même...
Ouais, si t'as un petit crédit sur ton appli...
Si t'as un centime, on ne cautionne pas les jeux en ligne, mais ça peut être une bonne solution. Par contre, c'est en direct. Hein. Faut se lever...
Tu peux pas...
Voilà. Donc voilà. Mehdi, est-ce que tu nous enchaînes avec les résultats de nos clubs
isariens? Eh oui, nos jolis clubs isariens, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 15 jours? Alors, honneur à Beauvais qui joue en N3. Donc Beauvais se maintient toujours à l'équilibre. Ils sont à 5 victoires et 5 défaites. Donc ils sont 9e sur 14 de la poule avec 3 victoires d'avance sur le 11e. Comme je vous ai expliqué, du 11e au 14e, ça descendait en division en dessous. Donc il faut vraiment regarder les résultats du 11e. Donc Beauvais a quand même 3 victoires d'avance, ce qui est quand même pas mal pour le maintien. Le dernier match, c'est une victoire à domicile, 74-68 contre Bourbourg. Je ne savais pas que ce club existait. Donc Bourbourg, et qui était 4e. En Prénat, Gouvieux gagne 77-55 à Dorigny et est cinquième de
sa
poule.
C'est mon coin, ça.
Ah, c'est un coin.
C'est près de Douai.
Et donc, ils sont cinquième de la poule A avec 5 victoires et 3 défaites. Dans la même poule, Marny a le bilan inverse, 3 victoires pour 5 défaites. Et ils ont perdu ce week-end à domicile 69-77 contre Tourcoing. Et ils sont huitième. Dans la poule B, Crépy est septième avec 4 victoires et 4 défaites. Et ils ont eu un week-end victorieux à Capelle, 85-89, c'était serré. Côté filles, toujours en prénat. Donc Lacroix et Compiègne se suivent toujours. Et avec le même bilan, 4 victoires et 4 défaites. Lacroix est 5e, Compiègne 6e. Compiègne a gagné à Saint-Amand 78-62 et Lacroix gagne contre Templeuve 82-61. Donc les deux équipes se suivent. Ils gagnent les mêmes week-ends, ils perdent les mêmes week-ends.
Bah, c'est bien, voilà. C'est cohérent.
Les amis.
Du secteur.
Ce sont des amis. Ouais. Voilà, monsieur.
Merci, super. On passe tout de suite au match de la nuit. Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bank it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami. Bien, alors, il est temps de passer un petit peu au résultat de la nuit. Alors, on ne va pas se cacher, on n'avait pas une nuit avec de grandes, grandes affiches, mais il y avait quand même un ou deux matchs qui retenaient notre attention. Le premier match qui était peut-être le plus intéressant, c'était un petit Boston-New York. Mmh. Alors, Bruno, tu devais être content parce que, franchement...
Jalen Brown, 42 points.
Propre.
Mikal Bridges, 35.
Ouais.
Mais bon, une belle victoire des Celtics. Dans le Money Time.
À la Grinta. Ouais. Franchement, ils sont à chercher avec les dents, celle-là. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais... Alors, mention spéciale à... c'est Brandon Walsh, c'est ça?
Ouais.
C'est Brandon.
Le mec qui met les 4 derniers points.
Ouais. Alors, le mec, une super défense et tout ça, le gars, il vient de nulle part aussi. Hein. C'est quand même sensé.
C'est ça qui est bien, c'est qu'il garde la culture Celtics. J'aime bien.
Il a mis 8 points dans le match, il a mis les 4 premiers au deux débuts du premier quart-temps ouais. Et ses 4 derniers à la fin du quatrième.
Important, en plus d'interception aussi sur la fin. My Notes, pareil. C'est...
Avec deux, il ouais. faudra choper deux big men là, pour, sous le sapin. Là, pour,
ça serait bien, pour Noël.
Sous le sapin de Noël.
Les vœux de Noël. On va faire ça, prochaine émission.
C'est ça. Ah, pas équipe, mal, tiens, on va
les vœux. Mais bon, il faut avoir deux big men dispo là, mais autrement, ça pourrait le faire.
Et puis, un petit espagnol là.
Hugo González.
Ouais, ouais. Garcia. Hugo González qui a fait aussi un super... Un super
lui, c'était une bonne draft, je le sentais bien, lui, sa draft.
Mais vraiment, franchement, Boston, en fait, c'est là qu'on réalise, je sais pas, Bastille, si t'es d'accord, que le cœur d'un champion, en fait, quand une équipe a été championne, quand il reste des...
Il y a des bons restes, quoi. Quand même, il y a une culture de la gagne.
Ouais, c'est ça.
Ils se donnent à fond sur chaque match, on le voit que... Voilà, ils sont dans le dur quand même, comme tu dis, il manque un peu d'intérieur.
Ils n'ont pas de marge.
Hein. Ah, ils n'ont pas, pas de marge. Sur le rebond offensif, par exemple, il ne faut pas louper les shoots.
Il n'est pas mauvais, Keïta. Non, ne sous-estimez pas. Franchement, il fait des dégâts. Je crois que c'est le meilleur rebondeur offensif de la Ligue.
Et tu vois, c'est devenu... Par contre, c'est une technique qu'apparemment Houston font maintenant. C'est tout sur le rebond offensif. Quoi. Ouais. Ils n'en ont rien à péter. T'arroses à fond.
C'est ça.
Au niveau du shoot.
Et il va aller taper, comme il est hyper long, il va taper dans la balle, il va embêter le monde. Et...
Ouais. En tout cas, belle victoire. New York, c'est un peu troué quand même. Hein. Il y a eu des... ah, c'était un peu le lion. Ils commencent, ils font un gros écart. Je crois qu'il y a 14 points d'écart. Mmh. Puis après, ils prennent, c'est un peu l'accordéon. Ils reviennent sur la fin. Mais bon, finalement, ils n'ont pas tremblé. Donc bravo.
Ouais, mais Brown à New York, il jouait beaucoup en début d'année avec 11, 12 joueurs. Là, il faisait des rotations. Et ça, t'as vu, là, ça y est, ça gagnait pas assez de matchs. Ouais. Ça revient à la mode Thibodeau.
C'est exactement pareil, en fait.
Hein. Ouais. Bon, après.
Gershon, je crois qu'il Gershon, a que 8 minutes.
Ouais, s'il a que 8 minutes.
Ouais. Et on voit qu'il est emprunté. Il ne sait pas comment se situer, il n'a pas beaucoup d'occasions de shoot, il pose beaucoup d'écrans, il prend des rebonds, mais
il se montre pas individuellement.
Il commence à dire qu'il est en surpoids et tout ça exprès pour le.
Ouais, alors. Gershon, il a toujours été comme ça.
Ouais, ouais, voilà.
Bon, en tout cas, on pense à lui parce qu'on l'aime bien, franchement, de
ouais, ouais,
national,
ouais,
vraiment. Donc,
joueur.
Allez, accroche-toi, Gershon.
Qu'est-ce qui représente bien l'équipe de France?
En plus. Victoire aussi d'OKC contre Golden State. Ils ont eu un petit peu chaud. On va pas trop s'étendre non plus. Butler qui sort au bout de 15 minutes.
Ouais.
Mais,
ouais. Voilà. Ouais, ils ont fait vite un écart de 20 points, mais les Warriors sont revenus. Et Shai, il a plié l'affaire, quoi.
La deuxième mi-temps, sans Curry, sans Horford, sans Butler.
Eh ouais.
Ouais, ouais.
38 okay. points pour SGA.
Et ouais, voilà. Propre, hein, vraiment.
Une journée au bureau. Alors,
une journée au bureau.
Jaden Williams revient. Hartenstein se blesse. Enfin, en plus, il y a des passages à l'infirmerie, mais ça perturbe même pas l'équilibre.
Ils sont sur une saison all-time. Ils vont tout péter.
Ils n'ont qu'une seule défaite en 21 matchs hein, pour l'instant. Ouais.
C'est pas mal.
Ouais. Peut-être que dans un mois, on parlera de,
c'était
du record,
quoi,
du record des Warriors.
Les Warriors, c'était ouais. 24-1.
8.
Non, mais.
Les Warriors, non.
24,
24 ou 25-1. Ouais.
Ouais, ils sont pas très loin. Ouais. On passe du coup, je vous propose de passer peut-être deux minutes, pas plus, mais sur le classement.
Oui.
Un point sur le classement.
Oui, surtout la conférence.
Oui, oui, oui. Alors, je vous laisse deviner le premier.
Detroit.
Ouais. Alors, les Detroit Pistons sont premiers de l'Est et de loin, avec 17 victoires pour 4 défaites. Derrière, on a deux équipes quand même surprenantes.
Toronto, ouais.
Toronto qui est deuxième, qui joue un bon basket.
C'est génial à regarder,
ouais,
Toronto.
Ouais. Ça joue vraiment bien.
Ouais. Ça joue bien, alors ça défend bien. Ils ont la quatrième meilleure défense. Mais en fait, on avait un petit peu de doute sur le fait que Ingram, Barrett et Scotty Barnes se marchent sur les pieds.
C'est
mais en fait,
que
pas du
des
tout,
joueurs revanchards, ça.
Ouais,
c'est
ouais,
qu'on c'est a vrai. Viré de franchise en disant ils feront jamais rien. Et là, ils sont tous ensemble, ils se serrent les coudes. Peut-être que ça durera pas.
C'est,
on
c'est la première fois qu'il y a un mois plus.
Mais moi, j'aime beaucoup regarder les Toronto Raptors. Ouais.
Et eh ben moi j'aime bien beaucoup regarder Miami. Tiens, donc ils sont troisième Miami avec franchement une
c'est
belle
incroyable.
Série.
Avec ouais, le quasiment bon. Le même effectif, tu changes quasiment rien.
Bah tu rajoutes un Norman Powell.
Ah. Et merci les ouais, Clippers encore.
Ah ben franchement. Ouais.
Toujours de remercier
encore
les Clippers.
Un bon choix.
Ils ont une défaite.
C'est un bon pif ça. Hein.
Moi je pense que les Clippers ils devraient prendre en GM Nico Harrison.
Ouais, on peut. Au Jordan Poole. Allez chercher le Jordan Poole.
Ouais,
ça fait
bon,
longtemps qu'on n'a pas parlé de lui.
Ah, tu déconnes. Vu comment ils nous font nos semaines, à chaque fois ils sont capables de le faire. Donc le Heat est troisième, les Knicks quatrième. Alors ça commence à. La hiérarchie commence à s'établir quand même à l'Est. On voit parce que le Magic se repositionne. Les Cavaliers pourraient remonter, ils ne sont pas complètement largués. Ouais. Les Hawks sont septième. Et, chose à. Alors, on en reparlera dans le besoin ouais, militaire, ouais. Mais Hawks jouent vachement bien.
Oui, oui, c'est ça. C'est que
donc,
ça.
Voilà, question à se poser.
Surtout avec Johnson.
Wow. Ouais. Les Celtics, huitième, et bien dans le positif, hein, puisqu'ils ont 57% de victoire. Puis ouais. Après, d'ailleurs, les Sixers, voilà, qui sont en train de redescendre. Les Bulls, ben tiens. Et les Bucks. Ouais. Alors, les Bucks, ça sent pas bon, hein. Clairement, franchement. Et je sais pas si vous avez vu, Giannis ça.
Il y a un dossier aujourd'hui qui est sorti.
Vas-y, balance, Mathis.
Non, je sais pas, il paraît qu'il a retiré tous ses.
Tous ses contenus.
C'est quoi, sur Asta ou ouais, sur.
Tous ses contenus liés.
Tous ses contenus liés aux Bucks.
Bon.
Mais là, mais tout en fait, moi, je l'espère tellement qu'il aille jouer dans une franchise pour jouer un titre. Enfin, c'est un joueur extraordinaire, mais là, il se perd.
Il se gâche là, clairement.
Il se perd. Mais bon, après, s'il va dans une franchise plus forte, est-ce qu'il sera joué avec les autres?
Parce que là, ils perdent contre les Wizards, c'est ça.
Et puis hier, ils ont
l'avant-dernier
ouais,
là.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est contre les Wizards.
On n'a pas parlé des Nets, c'est normal.
Alors, il y a une partie des équipes qu'on on passe à la conférence Ouest avec un Thunder dont on a parlé déjà qui écrase tout, 22-1.
21-1,
pardon, excusez-moi. Les Lakers qui sont solidement installés à deuxième place avec 15 victoires pour 5 défaites. À égalité avec Houston, non, pardon, pas à égalité. Juste derrière, on trouve Houston, troisième, qui tient son rang. Les Nuggets, 20-14, qui tournent un peu moins bien.
Ouais, ça tourne vraiment moins bien. Ouais, bah, je te dis, Chris Brown, en tant que défenseur principal, qui n'est pas là pour un moment. Aaron Gordon, il n'y a plus personne qui joue en ligne de fond.
Jamal Murray, maintenant, qui se blesse. Qui fait une super saison, Jamal Murray.
Ouais, ils sont égalités.
Et Jokic se retrouve un peu seul, alors même s'il peut gagner les matchs tout seul, il ne va pas gagner tous les matchs tout seul.
Non, ça va être compliqué.
Et Rockets, c'est dingue, ils ont joué que 18 matchs quand même.
Ouais, ouais.
Ils ont. Ouais, et.
En tout cas, c'est solide aussi les Rockets. Les Spurs sont cinquième, hein, c'est bien. Ils sont bien installés, les Spurs, hein, franchement. Et ils ont bien géré l'absence.
Ils gagnent 6 des 8 derniers matchs.
Ouais. On parlait des joueurs absents comme Victor et tout, mais ça joue très très bien, les Spurs. Hein. Bah, même bien, sans, ça joue très très bien.
Ça, c'est une bonne garantie, parce que c'est vrai qu'on avait peur qu'ils s'effondrent un petit peu derrière, mais là, ils tiennent le rang. Les Wolves qui alternent le bon et le moins bon, mais beaucoup, beaucoup le moins bon, je trouve, quand même. Hein. Les Suns, septième.
Meilleur match quand même de Rudy cette nuit, il a fait son meilleur match de la saison.
26 points, il marque. Ouais. 4 fois plus que d'habitude.
Contre, les contre la raquette des Pelicans.
Bah,
tu peux préciser, Bruno.
Ah, en prolongation.
Voilà. Bon, ah, voilà. Et il y a un truc positif.
Allez, et faut dire, quand, faut, c'est allez. Les Suns, ça, c'est une super surprise aussi, qui sont 7e.
Et pareil, dans les équipes qui jouent bien, qu'on n'attend pas. Toronto et les Suns, c'est exactement les mêmes équipes. Ouais. C'est des belles équipes à voir jouer si vous avez la possibilité de les voir. On prend du plaisir à les voir jouer. Et c'est des équipes qui jouent sans grand espoir, en fait, parce qu'elles elles savent très bien qu'ils ne seront pas champions. Mais ça joue très, très bien.
Ouais, et puis ils prennent les matchs qu'ils doivent prendre, et ils jouent crânement leur chance. C'est pas le cas des Warriors qui sont quand même, qui alternent vraiment des.
Ouais, mais ils ont eu un gros calendrier aussi. Début
ils ont un gros calendrier. Là, ça fait un moment que ils ont des absences de Curry. Mais bon, on sent bien que ces Warriors-là.
Ouais, ils sont limités.
Hein. Ils sont limités, hein, clairement.
Hein. Ah, faut pas que ça se pète de trop, quoi.
Voilà, on passe à
donc
la.
Donc là, tu ne parles pas non plus de Utah. D'accord. Oh. Ah ouais, t'as vraiment choisi tes équipes.
Pourtant, c'est des équipes à voir jouer.
Ouais.
Là, Portland,
Clippers, les Kings, les
Pelicans. Ils sont en embuscade derrière, mais bon, voilà.
Zion qui est blessé 3 semaines.
Pour la vie, faire des choix. Ah oui, ça, c'est la même blague.
C'est dommage que Miami soit pas à l'ouest. Hein. On va parler un peu plus de l'ouest, j'ai l'impression.
Bon, allez, il est temps de passer à la rubrique suivante. Aujourd'hui, dans le basket et WAM, la bagarre. La NBA est une ligue ultra compétitive. Tout au long de son histoire, elle a cultivé, sans parfois être capable de les contrôler, certaines rivalités devenues légendaires. Lakers contre Celtics, Bad Boys de Détroit contre Chicago Bulls de Jordan, et plus récemment, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks. Les beefs entre franchises sont parfois historiques, parfois temporaires, mais ils ont une vertu, en plus de remplir les caisses d'Adam Silver et de la NBA à coups d'amendes bien salées. Ils exacerbent cette tension indispensable au suspense et au drama qui reste la plus belle toile de fond de la Grande Ligue pour en garantir le spectacle. Alors si on est tous trop jeunes, ça fait du bien de le dire, hein, pour avoir assisté au coup échangé entre Larry Bird et Julius Erving, derrière la rivalité entre Celtics et Sixers en 84, le souvenir d'un Jordan sautant à la gorge de Reggie Miller en 93 est moins lointain. Vous en souvenez les gars? Et que dire de la baston la plus légendaire et la plus violente de l'histoire, hein, Malice at the Palace, entre Pacers et Pistons en 2004, au cours de laquelle Ron Artest, avant qu'il ne change de nom pour un pseudo-pacifiste, Meta World Peace, tenta un geste d'ostéopathie non autorisé sur Ben Wallace, incitant ce dernier à lui dévisser la tête avant que la baston ne s'exporte dans les gradins, le tout aboutissant aux plus lourdes suspensions et amendes jamais distribuées. La bagarre, comme on dit, c'est alors devenu une crainte pour la Ligue, celle de perdre le contrôle et l'emprise sur des scénarios qui, comme chez Disney, devaient convenir à des gamins et des familles anesthésiées dans un canapé tout en avalant placidement des curlies. Il y a pourtant quelques années, les suspensions, les contacts virils que n'auraient pas renié Cyril Gane ou Jérôme Le Banner, ça faisait partie intégrante du jeu, ça pouvait même décider du sort d'une série. Et le fan du Miami Heat que j'étais déjà dans les années 90 ne peut pas vous priver des mémorables confrontations entre les New York Knicks et le Heat. À ma gauche, New York, représenté par le bestial Patty Wing, Charles Oakley, véritable tueur à gages, Larry Johnson et autre Anthony Mason qui auraient fait le bonheur d'un ring en poids lourd. Les frères Lopez du 36 à côté, c'était un groupe de K-pop. Une équipe tellement heureuse de voir Michael Jordan lui offrir une fenêtre de titre pour un titre grâce à ses retraites qu'elle était prête à étrangler tout promeneur égaré dans sa raquette. À ma droite, Miami et son Terminator Alonzo Mourning, ses avant-bras de la largeur de mes cuisses. Mais aussi PJ Brown, resté célèbre pour ses prédispositions pour le catch, ou encore, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Jamal Mashburn, un beau bébé qui, à sa naissance, a sans doute entendu s'échapper de la bouche de sa mère un « Oh my God, c'est moi qui ai sorti ça !» Pendant 4 années de suite, les deux équipes qui développent un amour comparable à celui que porte Vladimir Poutine à Volodymyr Zelensky vont se mettre sur la gueule avec la même subtilité que celle qui pourrait naître de la rencontre fortuite de deux bus de supporters entre OM et PSG sur une aire d'autoroute dans la Creuse. Si vous n'avez jamais vu cette image, allez chercher sur internet la photo qui montre le coach de New York d'alors, Jeff Van Gundy, 1m60 pour 45 kg, après une raclette hein. Accroché à la jambe de Mourning, lequel continue son avancée vers le banc new-yorkais comme s'il venait de mettre sa semelle dans un chewing-gum, résolu à parler du pays avec ses adversaires.
Il a pris une patate, Jeff Van Gundy.
Ah bah il est dans le dos.
Une fois dans un autre match. Ouais, ouais. Parce qu'il a voulu s'interposer et il y en a une qui s'est perdue.
En tout cas, il était courageux. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que la bagarre c'est bien, que la violence règle les problèmes. Et même si Mehdi nous dit que si ça n'est pas le cas, c'est parce qu'on n'a pas tapé assez fort, l'engagement ça a un coût humain certain et il faut bien reconnaître que l'issue des séries entre le Heat et les Knicks d'alors n'était pas dictée par le jeu, non. C'était le nombre de suspensions qui tranchait. On n'a plus beaucoup d'occasions de se faire des papouilles de la sorte dans la NBA actuelle. On se pousse un peu, on se colle front contre front, comme Grant Williams et Jimmy Butler en 2022, où on déclare en conf de presse que l'adversaire du soir est un freluqué, comme Klay Thompson avec Ja Morant, en faisant bien attention à ne pas trop chauffer l'autre, des fois que, comme Nikola Jokic, il dispose de deux frères serbes enclins à venir effectuer des massages non conventionnés à votre domicile.
Petit massage lombaire.
Voilà. Mais pour conclure, n'oublions pas qu'un sport ou une compétition sans rivalité, c'est comme une soirée crêpe sans Nutella, un sapin de Noël sans boule, ou un Père Noël sans sa hotte, et...
C'est des cadeaux.
C'est boule.
C'est boule.
C'est boule.
Ah,
c'est enfin, Ja Morant, il doit jamais parler à Klay Thompson.
Jamais.
Il a même pas le niveau de parler à Klay Thompson.
Ceux qui se sont chauffés récemment, c'est Rudy avec Draymond Green. Ils aiment bien Shadwick.
Oui, on aurait pu parler de Draymond Green, c'est vrai.
Après, c'est vrai que quand tu prends 100 000 dollars d'amende, bon, la fois d'après, tu dois quand même y penser.
C'est vrai. Allez, vous écoutez Money Time sur Radio Graphique 94.9, la meilleure émission artisanale sur le basket, réalisée maison avec des produits frais, mais par des mains sales. Et il est temps d'une pause musicale.
Business if it's moments.
Vous écoutez donc Money Time sur Radio Graphite 94.9 sur Compiègne, la meilleure émission sur le basket. Je l'ai déjà dit, je l'en dis, c'est toujours bon à entendre. Ok, il est temps d'ouvrir notre premier dossier de la soirée. Et ce dossier est consacré aux rivalités qui ont marqué la NBA des années 90 à aujourd'hui. Alors dressons quand même le cadre de nos échanges hein, pour être bien clair. Il s'agit des oppositions au sein de chaque conférence, Est et Ouest. Ils sont devenus, si ce n'est mythiques, au moins remarquables. L'une des plus marquantes, c'est forcément celle qu'on a déjà évoquée entre Bulls de Jordan et Pistons version Bad Boys au début des années 90. Et du coup, on vous propose un petit tour d'horizon des confrontations les plus calientées de ces dernières années. Alors, on rappelle aussi que pour créer une bonne grosse rivalité, on rappelle la recette, hein, de l'enjeu, une once de jalousie, des protagonistes chauds bouillants, une pincée de méchanceté, voire un zeste de violence pour épicer la sauce, un chouïa de polémique, l'arbitrage, le what if, etc. Mais surtout, des confrontations répétées. Et c'est Mehdi qui va ouvrir le bal, puisque tu vas nous parler de...
Eh ouais, avec moi, on va partir sur la conférence Ouest, avec une énorme rivalité qu'il y a eu entre la fin des années 90 et les années 2000 jusqu'à 2010, donc pendant 12 ans, entre les Lakers et les Spurs. Sur ces 12 années de NBA, 9 titres ont été partagés par ces deux franchises. Ils se sont rencontrés pratiquement tous les ans en play-off, ces deux franchises qui deviennent simultanément des puissances de la conférence Ouest. Donc les Lakers sont portés par Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, puis plus tard par Pau Gasol et de nouveau Kobe. Les Spurs sont emmenés, eux, de leur côté par Tim Duncan et David Robinson, puis Tony Parker et Manu Ginobili sous la direction de Greg Popovich. Donc ces deux équipes dominent presque toute une décennie. C'est énorme sur ces dates-là. Alors pourquoi c'est une rivalité ? Entre 99 et 2010, donc les Lakers, c'est 5 titres, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, et les Spurs, 4 titres, 99, 2003, 2005 et 2007. Donc ils ont des confrontations mémorables en play-off. Ils se sont rencontrés 7 fois en play-off entre 99 et 2013 avec quelques séries marquantes. En 99, les Spurs battent les Lakers et vont chercher leur premier titre. Ouais,
avec Robinson à l'époque.
Exactement. En 2001, les Lakers prennent leur revanche et écrasent San Antonio 4-0 durant leur run presque parfait en play-off, sauf le premier match de la finale contre Philadelphie qui perdent. Donc ils font 16-1 sur
Petit big up à Tyronn Lue en passant.
Voilà.
Ouais. Entraîneur des Clippers.
Ouais. Ah, il s'était fait crosser. Hein.
En 2003, San Antonio met fin au règne des Lakers. Duncan MVP et les Spurs sont champions. En 2004, le fameux buzzer beater de Derek Fisher en 0,4 secondes.
4 dixièmes de seconde.
4 dixièmes. Allez voir sur Internet si vous ne l'avez pas. Celui-là, c'est l'un des finishes les plus vus sur Internet. Derek Fisher à 0,4 secondes de la fin. Un des moments les plus iconiques de la NBA. Et ça, c'est le game 5 de mémoire. Et ça va changer complètement la série.
Le trauma derrière.
Ouais.
T'en mets pas.
En 2008, les Lakers de Kobe et Pau Gasol battent les Spurs en finale de conf. Et en 2013, bon, c'est un peu en dehors de leur rivalité. C'est le dernier duel et les Spurs balayent les Lakers. Après 2013, les deux équipes vont complètement s'affaiblir et leur rivalité va un peu s'atténuer. Il va plus y avoir de bagarre entre les deux. Alors, ce qui est frappant sur cette rivalité, c'est que ce sont des contrastes fascinants. Donc les Lakers, c'est la culture du glamour, du spectacle, des stars XXL, Shaq, Kobe et plus tard LeBron. Le style, c'est attaque puissante, triangle offensif avec la tactique de Phil Jackson. Voilà. Alors que les Spurs, c'est une franchise humble, discrète, le système Popovich avec Duncan. On est discret, mais on est efficace, on est discipliné. C'est
la rigueur.
Beautiful game des années 2010 avec une circulation de balles exemplaire. Moi, je pense que la meilleure équipe au niveau de la circulation de balles, c'est les Spurs de 2014.
Ah, je suis assez d'accord.
Avec le titre. Ouais.
Contre Miami, je m'en souviens. Exactement. Et franchement, ils ont pris une leçon de basket. Je crois que j'ai jamais vu une équipe dérouler un basket pareil en finale.
Ouais, après, c'est après où ils se font éliminer par Miami, justement, avec Allen.
L'année d'après. Le shoot de Ray Allen, effectivement. Alors, tu l'as dit, c'est la confrontation Duncan-O'Neal, elle était incroyable.
Ah oui.
C'est l'axe principal.
Ouais. J'ai noté un match en 2002, dans le Game 5, donc lors de la demi-finale, le Game 5, le score, les Lakers remportent 93 à 87. Et vous allez regarder les scores, il n'y a pas des 120 quelque chose, hein, c'est toujours ah, c'est hyper serré. O'Neal, il met 26 points, il prend 19 rebonds. Et Duncan, il met 34 points, il prend 25 rebonds. Ouais, un match hyper physique, symbole pur de la rivalité, domination intérieure, gros défenseur, un rythme.
Puis, en fait, les Lakers, c'est un petit peu le, comme tu disais, le glam et tout. Duncan, c'était chirurgical. Ah ouais. Le mec, il sautait à peine. Enfin, il faisait pas rêver. C'est vrai qu'il souriait pas. Il était, il était pas photogénique, on va dire.
C'était un joueur. C'était un joueur d'équipe.
Ouais, ouais, c'était l'équipe avant tout.
C'est ça. C'est une philosophie. Hein.
Ah, j'ai vu une fois Duncan, il a dû mettre un vêtement flashy, mais c'est parce qu'il s'est trompé, il a pris un truc de sa femme. Hein. Sinon, il est toujours habillé très discret. Alors,
je vous ai raconté que j'ai un copain qui est retombé sur une plage aux îles Vierges, qui a rencontré Tim Duncan, qui a vu Tim Duncan. Et ben, il n'a pas eu envie de lui dire bonjour parce qu'il n'avait pas l'air d'être super ouvert,
disposé.
Ouais. Ok. C'est bon, on enchaîne.
Mais c'était vachement intéressant dans ces confrontations, ces rivalités. C'est vrai que c'est hyper intéressant.
C'est des joueurs de légende en plus. Ouais. Duncan n'est pas toujours à sa place dans les classements, alors que c'est peut-être le meilleur allié fort.
Oui, mais c'est charge,
pourquoi peut-être ?
C'est l'équipe.
Je comprends pas.
C'est des charges, c'est l'équipe. Ouais. Il peut pas. Les Spurs, c'est tellement identifié comme une équipe, comme Ginobili, Duncan, Parker.
Oui, c'est ça.
Que tu peux pas sortir du lot, quoi.
Il y avait un vrai coach, mais en même temps, enfin, quand tu voyais les confrontations, d'un côté t'avais quand même Phil Jackson et l'autre côté t'avais Greg Popovich.
Ouais. Wow. Ouais, respect. Enfin,
ouais, peut-être c'est... deux des meilleurs coachs. Oui,
certainement. Certainement. Ouais.
Avec des cylindrés, c'était deux énormes équipes. Hein. Ouais. On a eu la chance de voir ça.
Ouais, c'est quand même, c'est vrai.
Et les trois titres manquants, il y en a un par Miami, un par Boston et un par Détroit. Donc voilà, on n'a pas Money Time quand même.
Super. Moi, je vous parle très rapidement parce que je l'ai fait un peu dans ma chronique des affrontements entre Heat et Knicks. Dans les années. Alors, ça va de 97 à 2000. Pendant 4 ans de suite, ils vont se rencontrer en play-off, ces deux équipes. Elles s'aiment pas trop parce qu'il y a un petit passif. En fait, Pat Riley, qui était le coach de New York juste avant, réussit pas à gagner son titre avec les Knicks malgré la finale contre Houston. Il n'est pas passé très loin, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, il se barre à Miami, il devient pas coach, mais président. Enfin, on lui donne tous les pouvoirs, en fait. Et du coup, là, il monte une armée un petit peu basée sur le modèle de New York, des joueurs rugueux. Il veut prendre la tête, les jeunes joueurs du Heat veulent s'asseoir sur la conférence Est, sauf que les New Yorkais à cette époque-là, c'est une équipe de caractère. Et sur ces 4 années de suite où ils se rencontrent, les 4 séries vont aller en match décisif. Il n'y a pas une seule. Donc que des matchs 5, parce qu'il y a deux confrontations au premier tour. Hein, à l'époque, tu dois gagner 3 matchs pour passer le premier tour et 4 après par la suite. Mais après, derrière, ce sont des Game 7. Alors, parmi les moments clés, on a en 98 la bagarre générale qui mène à des suspensions multiples. Et du coup, Miami en profite. L'issue de la série modifie. C'est la seule dont ils profitent vraiment en réalité. Hein. Mais le basket est ultra rugueux, ultra physique, les scores sont petits. Il y a des joueurs de très grande classe malgré tout, hein, des Tim Hardaway, des Alan Houston. Bon, Alan Houston qui met un shoot décisif dans un.
Il était beau lui, Alan Houston.
Ouais, c'était beau. Alan Houston, la trail spray, ouais.
Il
avait une belle ligne arrière, vraiment, c'était super sympa. Mais ça, c'est un basket très physique. Moi, j'ai adoré à cette époque-là, mais bon sang, qu'est-ce que c'était dur. Hein.
Et en 99, c'est pas là où les Knicks, ils sont 8e de la conférence.
Miami est premier.
Et Miami est premier et les Knicks, il est étape. Ouais. Ça a été là. Ouais. C'est passé, c'est bon.
Il a fallu du temps. Ah, tu sais, on est déjà content d'aller en play-off. Hein. Directement, ça passait par le play-in à Miami.
C'est dommage que le play-in, c'est pas un titre.
Allez, c'est vrai. Allez, c'est reparti. Du coup, on passe à Baptiste qui va nous parler des Bulls contre les Pistons.
Ouais, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Ouais, c'est légendaire à la fin des années 80. Les amis de Mehdi dominent la NBA. Les Bad Boys font le bonheur de la franchise de Détroit, emmenés par un Isaiah Thomas mémorable. Les Pistons sont sacrés champions NBA coup sur coup 89-90.
Bill Laimbeer.
Avec deux finales de conférence face à Chicago. Voilà, lors des trois premières confrontations, les Pistons ont pris le dessus sur la franchise de Chicago, réservant un traitement particulier à
MJ,
Michael Jordan, traitement connu sous le nom de
Jordan Rules. Les règles.
L'une des règles, ne respectait absolument pas celle du basket. Voilà. La règle, c'est simple, s'il arrive dans la peinture, foutez-le au sol.
Oh, une petite faute de temps en temps.
No blood, no foul. Ouais.
Voilà, voilà en gros la philosophie des Bad Boys. Une domination mise à mal dès l'année suivante par les Bulls en 91. Sur le déclin collectif de Détroit, obstacle majeur à l'ascension de sa majesté, finit par se faire sweeper en finale de conf. Ouais. Voilà, avant de gagner son premier titre face aux Lakers d'un certain Magic Johnson, qui lui joua sa dernière finale NBA cette année-là. À cette occasion, l'inimitié mutuelle entre Jordan et les Pistons atteint son apogée. Alors, les joueurs de Détroit ont la super idée de quitter le parquet sans prendre le temps de serrer la main aux Bulls. Si avec les années, certains d'entre eux ont exprimé des remords, ce n'est pas le cas de Bill Lambert, qui s'est attribué la paternité de ce geste anti-fair-play. Pourquoi est-ce que je regretterais ça aujourd'hui ?
Je l'adore.
Ce sont des pleureuses.
Voilà, voilà. Il a dit les mots.
Ils ont chouiné et pleuré pendant un an et demi en disant qu'on était nuisible. C'est justifié en 2020 auprès d'ESPN, le pivot le plus haï de l'histoire de la NBA. Ah
bah. J'irai jamais au Hall of Fame alors qu'il le mériterait, mais juste parce que...
Il a son maillot de retiré, monsieur.
Ouais.
Faire connaître les grands joueurs chez nous.
Ouais, mais je suis d'accord.
Voilà, mais le plus grave, c'est qu'ils ont dit que nous étions des mauvaises personnes. C'est parce qu'ils ont fait ça que je n'ai plus voulu leur serrer la main. Un walk-off malvenu qu'Isaiah Thomas, le meilleur meneur de la... Isaiah Thomas, le meilleur meneur de la Ligue à l'époque, a payé au prix fort, puisqu'il n'a pas été sélectionné en Dream Team 92 sous la pression d'un certain Michael Jordan. Qui avait mis sa venue au JO de Barcelone dans la balance.
Ouais. Voilà. Ouais, mais Magic était d'accord aussi. Hein.
Oui, mais bon.
Larry Bird l'aimait pas non plus.
Il n'y a pas beaucoup qui l'aimait, c'était un super joueur. Hein.
On voit très clairement déjà, encore aujourd'hui, relaté dans The Last Dance, que Jordan n'a toujours pas digéré cet affront. Il n'a pas pardonné l'inélégance du général en chef des Bad Boys à la fin du Game 4. Il dit dans The Last Dance: vous ne pouvez me montrer tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis sur le fait qu'il était un trou du cul, rumine encore sa majesté à propos de son ennemi juré.
Tu sais que moi, je pense que Jordan, s'il rencontre pas les Pistons en 89 et en 90,
il devient jamais
Jordan. Oui.
Tu sais, c'est comme Son Goku quand il va s'entraîner.
Ouais, il faut. Non, mais sur l'été 90, il passe ses journées à la salle de sport. Ouais. Il passe et il prend une musculature incroyable. Mais moi, je pense vraiment que Jordan ne devient pas Jordan sans
ça. Ça l'a endurci. Après, il est devenu un peu. Côté tueur, Jordan, il l'a acquis.
Il l'a acquis grâce à ça.
Ouais, carrément.
Grâce à ça.
Après, sérieusement, enfin. Détroit, ce qu'il faisait, c'était limite. Hein. Les coups de tatane
dans les vidéos, parce que
c'est toi qui dis ça.
Tu dis ça.
Non, mais c'est parce que. Alors, c'est marrant. Je sais pas, je fais un aparté, mais. Vous avez déjà capté à quel point les Pistons sont populaires pour les gens qui aiment le basket. C'est une équipe qui est ultra populaire. On le voit sur beIN Sport et tout ça. Tout le monde se réjouit de revoir Détroit à ce niveau-là, en fait. Et alors que c'est vrai que le basket des Bad Boys, c'est un basket qui est à la limite de l'antisportive, vraiment.
Mais bon. Mais regarde, ils se reconstruisent par quoi cette année ? Par la défense. Ouais. C'est tout. Hein. Ouais. Enfin, c'est. Y a pas de... Mais je pense que Jordan, ça lui a fait énormément de bien.
On y va alors. Terminé ?
Continue. C'est tout pour moi.
Super.
Ouais, parce que ça, on peut en parler longtemps.
Ah oui,
t'as mis une pièce.
Hein. On dit trop souvent le mot Pistons dans cette émission. Du coup, on repart sur. L'équipe de cœur, forcément, de Bruno, on va parler d'une autre confrontation.
Ouais, une rivalité Celtics-Heat.
Il y a quand même des équipes qui reviennent souvent.
Ouais, quand même.
Ouais, mais c'est pas... on n'y parle pas si elles sont bonnes.
Alors, c'est vrai que c'est deux équipes, deux philosophies, deux légendes de la NBA qui s'affrontent depuis plus d'une décennie, parce que c'est pas non plus une rivalité qui est très longue. Boston, donc c'est une franchise historique avec 18 titres, qui est une symbole de plutôt de tradition, de jeu collectif, et de l'autre côté, le Miami Heat qui s'est créé par la starification et avec trois bagues à son actif. La rivalité, c'est bien plus que du basket, c'est une bataille de culture, d'ego et de quête de domination. Quoi. Les Celtics ont été créés en 1946 et le Heat a été créé en 1988. Et ils ont surtout marqué les années 2010 avec l'ère du Big Three, donc de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. et donc une identité de underdog vrai, assez combatif quoi. Et la rivalité s'est intensifiée à partir de 2010 avec des duels en play-off mémorables. Alors les origines de la rivalité, c'est d'abord l'ère de LeBron James, donc 2010-2014. Donc 2010, pour rappel, LeBron James quitte Cleveland pour rejoindre Miami pour former une super team avec Wade et Bosch. En face, il y a les Celtics menés par Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen, qui représentent plutôt l'ancienne génération. Et il y a des confrontations clés. Donc en 2010, les Celtics battent le Heat en finale de conf, mais ils perdent en finale face aux Lakers. En 2011 et 2012, le Heat élimine les Celtics en playoffs, notamment en 2012 avec un match 7 en finale de conf. Victoire 101-88 au Game 7. Et donc c'était le symbole de l'opposition des deux Big Three de Miami et de Boston. Et un choc de génération et de style. Après le départ de LeBron, il y a, en 2014, le Heat se reconstruit autour de Wade, puis de Jimmy Butler. Et les Celtics misent eux sur les jeunes talents, donc Jason Tatum et Jalen Brown. Il y a quelques faits marquants donc en playoff en 2020 dans la bulle d'Orlando, où le Heat surprend tout le monde en atteignant les finales NBA. Et les Celtics sont éliminés en finale de conf par Miami 4-2. En 2022, une nouvelle confrontation en finale de conf. Cette fois, les Celtics l'emportent 4-3 après un Game 7 hyper tendu à 196.
Ah ouais, c'est pas...
Et une défense étouffante et un Tatum en feu.
Ouais.
Et en 2023, les équipes se retrouvent à nouveau en finale de conf. Le Heat, là, cette fois-ci, crée l'exploit en éliminant Celtics 4-3. Avec un Game 6 historique où Boston menait 17 points au quatrième quart-temps avant de totalement s'effondrer.
Merci Jimmy.
Merci Jimmy. La dernière confrontation, ça date du premier tour des playoffs de 2024, l'année ouais, ouais. où Boston est champion.
Ils se sont fait éclater la gueule.
Fallait finir sur une bonne note. Hein.
Ouais. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a une opposition de hit culture, donc l'éthique de travail, une défense agressive par rapport à la tradition des Celtics. Les enjeux, c'est vraiment des confrontations à chaque fois. C'est vrai que c'est un truc qu'on attend, les confrontations dans la conférence Est, Miami-Boston. Tu sais que ça va être un test mental et physique, ouais. Ça va souvent envoyer.
Les deux équipes, je suis pas sûr qu'elles s'aiment pas. Hein. Je suis pas sûr qu'il y a
non, mais au niveau basket.
Mais on sent que basket, ouais. Moi, je me souviens d'actions décisives comme le contre d'Adebayo sur Tatum, une année qui va les priver qui les fait passer. Ouais. Mais c'est pareil, le panier à dernière seconde de Derrick White, ouais, la claquette à la dernière seconde.
Là, ouais.
Donc en fait, il y a des actions d'éclat des deux côtés et c'est vraiment moi, j'adore ces confrontations-là.
Et puis, bon, y a une petite opposition entre les fans, quoi. Les supporters des Celtics détestent le Heat pour l'arrogance et le Heat les voit comme Boston, une équipe trop favorisée par l'histoire. Et les coachs aussi, Spoelstra et Mazzulla, qui ont vraiment des oppositions sympas.
Super, bah écoutez, merci pour cette rubrique. On a pris un petit peu de retard, du coup on enchaîne, mais bon, c'était très intéressant de se pencher sur ça.
Merci.
On va pas Bravo. On passe à la rubrique suivante.
C'était vraiment très.
Notre dossier, deuxième dossier, c'est celui qui s'intéresse au dunk. On va prendre un peu de hauteur, que je dis de la détente, à l'aide d'un trampoline nécessairement pour nous, hein, pour évoquer un art qui est particulièrement apprécié par les amateurs de spectacle au basket, hein, l'art du dunk. Alors qu'est-ce qui fait un bon dunk ou un bon dunker? On pourrait parler de la dimension athlétique, de la puissance, de l'esthétisme, le receveur, c'est-à-dire qui prend le dunk sur la tronche, l'originalité. Est-ce qu'on est un dunker en match ou un dunker de concours? Messieurs, le dunk, pour expliquer en quelques mots, c'est quoi un dunk pour les néophytes qui nous écoutent?
DeAndre Jordan. Non, Michael Jordan.
Non, DeAndre Jordan. Non,
bah, tu prends le ballon, tu mets dans le panier.
Tu le prends, mais alors tu le prends, tu le. Voilà.
Direct.
Tu montes jusqu'à l'arceau, ouais. Et après tu l'écrases devant.
Au-dessus de l'arceau.
Souvent, faut être au-dessus de l'arceau.
Voilà, parce que sinon tu restes bloqué.
Non, ça s'appelle un stop.
Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, donc, et c'est cette action-là qui est la plus difficile, entre guillemets, à réaliser parce que. enfin, une des actions les plus difficiles à réaliser parce qu'il faut une détente conséquente. Ouais. Et quand
sauf quand tu fais 2m27.
Alors oui.
C'est quand même plus facile.
Effectivement. En tout cas, le dunk, c'est l'action qui fait vendre la NBA.
Oui.
C'est l'action la plus spectaculaire. On en voit dans les top 10, on en voit
tous les jours.
Dans tous les clips, dans les highlights, etc.
Mais même dans les salles de l'Ouest, t'en vois. Hein.
Oui, t'en vois aussi, c'est vrai, c'est vrai.
Big up à Amidou.
Moi, je vous propose de faire une catégorie, de catégoriser un petit peu les dunkers célèbres, c'est-à-dire ceux qui ont fait de ce geste du basket un art, un véritable art. On commence avec les esthètes. Alors moi, je vous parle très rapidement. On va citer quelques noms comme ça, mais on vous invite à bien sûr à aller voir des highlights ou des top 10 parce que les gens qu'on va citer sont des machines. Un spectacle, hein, je veux dire, les prouesses physiques, les dunks, que ce soit en contre-attaque sur la tête de quelqu'un ou en concours de dunk, hein, All-Star Game, sont vraiment des régales à regarder. Le premier, c'est Vince Carter.
Ouais, c'est la légende du dunk.
Voilà, donc
on commence pas par le plus mauvais. Hein.
Non. Celui qui est considéré comme beaucoup, par beaucoup comme le meilleur dunker de l'histoire, hein, tout y est. La puissance, le jump de malade, le temps de suspension en l'air. Ça, c'est
je suis assez d'accord avec ça.
Voilà, en match comme en concours en plus, hein, puisqu'il gagne quand même deux concours de dunk. Les posters. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un poster, hein? Quand tu es sur un poster, ça veut dire qu'il
y a un défenseur.
Voilà, c'est qu'il y a un mec en dessous qui essaye de défendre. Et a priori, ça n'a pas marché. Donc, du coup, en général, soit tu as gamelle derrière, ou en tout cas, c'est toujours un peu plus violent et plus spectaculaire. Alors, parmi les victimes prestigieuses, on peut quand même signaler Mutombo.
Mais les mecs qui veulent défendre. Voilà. Ouais, Rudy Gobert aussi.
Voilà.
Sur les photos.
Gobert, ouais,
et c'est les mecs qui veulent défendre.
Il est sur les posters.
Mourning, Alonzo Mourning.
Oui, bah
son plus gros dunk pour lui, c'est celui qui réalise sur Mourning où il lui rentre dans l'art. Alors, j'ai parlé de Mourning. Hein. Faut imaginer un mec de 2m08, 120 kilos, qui est une montagne de muscles, et là qui lui saute dessus, qui épaule contre épaule et qui lui écrase la tronche.
Un petit.
Le dunk de Pippen sur
Ewing.
Sur Ewing, il est légendaire.
Aussi, hein.
Et le mec, il va essayer de défendre. Ah, moi, aujourd'hui, il y a des énormes dunks. Ouais, bah, il n'y a personne qui vient défendre parce que personne ne veut être sur la photo.
Toujours.
On
pense aussi à Fred Weiss, hein, qui s'est dunké dessus au
Ah non, il ne s'est pas fait dunker dessus.
Non, il s'est fait
dunker dessus. Il est passé
par-dessus.
Le mec, il fait 2 mètres.
Il fait saute-mouton.
Allez voir ce dunk, même si on adore Fred Weiss.
Non, mais le truc, c'est l'action en général parce que c'est un rebond offensif. Et il a à peine le temps de repartir.
Non, c'est une interception. La France repart en attaque. Il vient piquer le ballon. Et après, il prend derrière la ligne à 3 points. Il prend son élan. Et le pauvre, il est,
voilà.
Est bon. Mais moi, je m'en fous parce que le mec, il essaye de défendre. Moi, un mec sur un poster, ça ne me dérange pas.
Non, non plus.
Moi, ce qui me dérange, c'est les dunks où tout, la défense, elle s'écarte. Vas-y, on va mettre 2 points. Ou non, moi, je préfère le mec qui va défendre.
Personne m'a
dit. Non, mais Rudy il se fait souvent bâcher là-dessus. Parce qu'il est sur les photos. Bah ouais, mais le mec, il est 4 fois meilleur défenseur de la Ligue aussi.
Bah ouais.
Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on défend ou est-ce qu'on défend pas? Voilà. C'est coup de gueule, monsieur.
Voilà, il n'est pas content.
Merde.
Mais du coup, on va lui laisser la parole. Voilà. Parler du cousin. Bah non. Bah, tu parles pas de Tracy McGrady?
Non.
Bon,
oh, il a rien vu.
Bon, du coup, c'est pas grave. On continue avec les esthètes. On parle. Tu vas nous parler de
Sa Majesté
Michael Jordan.
Ouais.
Voilà. Pourquoi?
Alors moi, j'ai qu'une image en tête. C'est le dunk 1988. Voilà, dunk contest à Chicago, salle de Chicago.
Prise d'appui sur la.
C'est ça. Prise d'appui au niveau de la ligne des lancers francs. L'envol majestueux qui en fera aujourd'hui un poster que tout le monde a eu dans sa chambre dans les années 90.
Ah ouais,
c'est magnifique.
L'histoire dira qu'il n'aurait pas dû, gagner le concours qui était réservé normalement à son ennemi juré.
Wilkins.
Oui, Wilkins.
Nick Wilkins.
C'est ça, qui avait normalement la meilleure note, mais bon. On était à Chicago, il fallait que Sa Majesté gagne le concours.
Le dunk est pas trop.
Et il n'ira plus au dunk contest après celui-là. Hein. C'était son dernier.
Ouais.
À noter que LeBron n'a jamais fait de dunk
contest. C'est vrai. Ouais. Bah, là, on a tout ce qui manque à LeBron.
Le GOAT.
Il vient de prendre une balle perdue.
mais là, tu
as. Mais il a toujours refusé, tu vois.
C'est la grâce, quoi. En fait, Jordan, c'est la grâce, le style, le hang time, parce qu'il reste, il reste une éternité en l'air. Il y a
c'est ça,
lui,
Jordan.
Ça. Donc, Kobe Bryant, alors si on cite quelques joueurs comme ça, Kobe, Zach LaVine, sont des mecs aussi un petit peu, ou Tracy McGrady,
élégant.
Qui était capable aussi, et très élégant dans la façon de dunker. Du coup, on passe à l'autre catégorie qu'on appellerait plutôt les slashers. Et, c'est-à-dire les gens qui, là, c'est un dunk avec violence sur personne aggravée.
T'as la violence du dunk et puis t'as la violence des fois de la célébration. Parce que toi tout à l'heure quand on parle de
Pippen sur Ewing,
il lui passe
d'ailleurs.
Dessus après.
Ouais. Ouais, il marche par dessus.
Il marche dessus quoi. C'est de l'humiliation quoi.
Ouais.
Et là, moi j'en avais un, toi c'est Sean Kemp.
Mais je suis venu avec le maillot. Hein,
t'as ton, son fameux, il fait un peu le pistolero.
Ouais, il le regarde à la fin, il dit, hey, t'es sur un poteau.
Mais ça, en plus, t'as même plus le droit de le faire en NBA maintenant. Ça, tu te prends tout de suite une technique. Déjà, ouais. Le gars, il reste accroché à l'arceau. C'est technique. Enfin, mais les célébrations.
De la NBA, c'est le polissage.
Et en plus, c'est des duos, quoi. Ouais. On parle aussi du dunk, mais toi, Kemp, c'est Payton, quoi.
Ouais, qui lui balance la balle.
Qui lui balance des alley-oops dans tous les sens. Ouais. Où t'as Kenyon Martin et puis Jason Kidd.
Tout le monde peut faire des passes D à Sean Kemp. Tu balances le ballon en l'air, de toute façon, il l'a attrapé. Il
comme Chris Paul et Blake Griffin, quoi. Aussi.
Penny et Shaq, tu vois. Ouais. Les duos comme ça, où t'as vraiment une association et.
Kemp, ils sont impressionnants, c'est vrai qu'ils font penser un peu
à
Dominique Wilkins, ça avait un petit peu le même genre aussi de dunk, très puissant avec des pumps.
Il était athlétique, un peu peur. C'était 2m04 et 104 kilos. Quoi.
C'est déjà plus grand, Sean Kemp.
2m08.
Ouais, c'est ce qui me semblait.
L'explosivité, terrible.
Malade. Donc des dunks. Il y a un dunk où son plus connu, je crois, où il met le ballon. Il le met.
Ça, c'est
un baby truc, je sais plus quoi.
Ah oui.
Non, il en fait un sur Chris Gatling qui est monstrueux. Il l'écrase et Gatling, il se relève et il va le voir.
Il serre la main.
Il lui dit bravo. Quoi.
Tu fais un top 10 de dunk et t'as celui-là dedans. Il est obligatoire, top de dunk de Sean Kemp.
Mais Sean Kemp, c'était un super joueur.
En plus,
un bon joueur. Le problème avec la coque et l'alcool, mais c'est dommage qu'il a
lui, il s'est perdu aussi.
Il est arrivé à 19 ans en NBA. C'est un des premiers gars qui saute la fac, qui arrive direct du lycée. Et il n'a pas tenu la longueur.
Les Sonics.
On pourrait parler dans la même catégorie de Blake Griffin, d'Aaron Gordon, de Giannis, hein, tout en puissance. Et puis après, il y a les petits gabarits. Alors, on va passer sur les petits gabarits parce qu'il faut en faire une émission spéciale. Tony, hyper spectaculaire parce qu'il chasse les scalps des big men. Donc on a Ja Morant, Derrick Rose à l'époque où il avait des genoux, Baron Davis, Steve Francis, voire Allen Iverson en début de carrière, Spud Webb et son 1m70, comme moi. Moi, tu imagines, moi qui dunk. Ou Nate Robinson.
Tu fais 1m70, toi.
Ouais, c'est impressionnant. Leur détente est juste hallucinante et si on la rapporte à leur taille, c'est encore plus spectaculaire. Mais du coup, Mehdi, tu as 2 minutes à peine pour nous parler des dunkers nouvelle génération.
Ouais, les gros dunkers de l'ère moderne. Alors, celui qui est vraiment symbole de ça aujourd'hui dans la ligue, c'est Shedon Sharp, qui joue à Portland Trail Blazer. Il a une explosivité exceptionnelle. Là, il en a encore mis un ce midi, là, si jamais vous voyez. En fait, quand il saute, sa tête, elle est au niveau de l'arceau.
Ouais,
c'est incroyable.
Il monte
à une vitesse. Il a le saut vertical parmi les plus hauts de la ligue. Je pense que c'est le mec qui a la détente la mieux de la ligue. Et il a une capacité aussi à monter sans élan. En fait, il va mettre des dunks à l'arrêt. Enfin, c'est incroyable. Dans le même terme, un peu plus féroce, il y a Anthony Edwards, le Ant-Man, qui lui met quand même 7. Par an, il en met toujours 4-5.
Ah ouais, 4-5 de méchant,
bien
sérieux.
Bien méchant. Ouais. Surtout quand il part ligne de fond, là. Et il aime bien. Lui, c'est vraiment un lion parce qu'il adore quand il y a une brebis sous le.
Ah bah, c'est ça. Lui, c'est l'odeur du sang. Lui.
Ah, mais c'est ça, tu vois.
Bonjour.
Donc, Ja Morant, t'en as parlé. Moi, ce que j'aime avec Ja Morant quand il joue au basket, c'est son élégance, quoi. Enfin, il invente des moves. C'est super. Dans la puissance, on va parler de Zion quand même. Parce que pareil, quand il joue, en fait, Ja Morant et Zion Williamson, c'est un peu les mêmes. Quand il joue, c'est des joueurs incroyables. Mais il joue pas souvent. Mais alors, lui, par contre, c'est tout en force. Hein. Il a une puissance monstrueuse. Et il a quand même une détente de 1 mètre du sol.
Ouais.
Il monte sur 1 mètre. Bah, c'est...
Sauf que ses genoux apprécient plus maintenant.
Ah bah non, bon. Ouais. Il y a pas ça. Giannis, on en a causé, pareil. Mais lui, ce qu'il aime, quand il aime bien dunker quand il part en coast to coast. C'est-à-dire, il prend le rebond en défense, puis il traverse le terrain, puis il va mettre un dunk. Comme s'il n'y avait pas d'autres joueurs. Il va tout seul, il fait tiens, je vais mettre un dunk. Super.
Il fait 8 pas en passant.
Ouais, c'est ça.
Parfois, il fait.
Obi Toppin. De Indiana, quel dunker.
Lui, il fait des riders. Alors, riders, pour expliquer, c'est quand tu passes la balle entre les jambes. Voilà.
Contre-attaque, il aime bien faire ça.
Ouais, il aime bien faire ça. C'est un super.
Lui, il fait ça en match. Il fait des dunks.
Il fait les concours de dunks.
Le concours de dunks, mais en match.
C'est encore plus impressionnant.
Quentin Grimes de Détroit, où il a une finition agressive, mais c'est incroyable.
Et puis à Détroit, Quentin Grimes.
Si.
C'est ça.
Après, il y a Aaron Gordon, t'en as parlé. Il a paumé deux concours de dunk contre Zach Laffin, alors qu'il y en a un qui devait gagner.
Celui où il fait passer la balle.
La balle
avec la mascotte, là.
Assis en l'air.
Non, le mieux, c'est ça. En fait, il saute, si tu veux, il se met en position assise, il fait passer le ballon sous de ses fesses et il vient mettre le dunk.
Celui-là. Il... Pour moi, c'est pareil.
Celui-là, je me suis levé de mon canapé. Sans déconner, j'ai fait
what the fuck.
C'est ça. Et le dernier, j'ai noté des Houston Rockets, enfin plus de Houston, de Phoenix, Jalen Green, qui est quand même...
Un sacré pétard vivant.
Voilà, c'est ça. 2 minutes, c'est bon ?
Eh ben, c'est très bien.
Bon, bah, voilà.
Bon, du coup, il n'y aura pas de buzzer beater.
Voilà.
C'est allé un petit peu vite, mais il y avait beaucoup de choses à dire.
Timing,
exactement. Il n'y aura pas de Can You Dig It ? Du coup, on fait une bise ce soir à Rémi. Voilà. On fait une bise à Buffa aussi, notre ingénieur du son qui n'était pas là. Donc, on l'embrasse bien fort. Et moi, je fais une petite dédicace à Ramia, Jade, Matisse et Benny du Collège Gaëtan Denain, qu'on devrait normalement prochainement entendre sur les ondes de Graphite. La prochaine émission, c'est le mercredi 17 décembre. Ce sera Mehdi qui sera aux commandes. Et voilà, petite dédicace vite fait.
Non ? Moi, j'ai une petite dédicace.
Vas-y.
À notre ami Kenny, qui est en Belgique en ce moment. Tournoi international, gendarmerie ou militaire, je ne sais pas. Voilà, on lui souhaite bonne chance avec l'équipe de France militaire.
Eh bien, let's go. OK. Messieurs, merci. C'était un grand bonheur.
Merci.
Très bien. C'était encore parfait, comme d'habitude.
Allez, ciao. Vous souhaitez une bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Salut les potos.